Chapitre 15e. Les prétendants à la main de la veuve. M. Slope ne perdit pas de temps à profiter de la permission que l'évêque lui avait donnée de voir M. Quiverful, et ce fut dans son entrevue avec ce digne prêtre qu'il apprit que Mrs. Bold était bonne à épouser. Il s'était rendu à Puddingdale pour faire connaître à son nouveau protégé les intentions bienveillantes de l'évêque à son endroit. Au cours de la négociation, il fut naturellement question des ressources pécuniaires de M. Harding et de sa famille. M. Quiverful, avec ses 14 enfants et ses 400 livres par an, était très pauvre, et la perspective de ce nouveau revenu, qu'il pouvait cumuler avec son bénéfice, lui était fort agréable. M. Quiverful connaissait depuis longtemps M. Harding et avait reçu de lui de nombreuses marques d'intérêt et d'amitié. Aussi éprouvait-il un très vif scrupule à supplanter un ami. Néanmoins, il fut de la plus extrême, de la plus servile politesse à l'égard de M. Slope. Il le traita comme le grand homme du diocèse. Il pria le grand homme de lui faire l'honneur d'accepter un verre de sherry. C'était un Marsala des plus plats. Que M. Slope but avec une grimace qu'il ne prit pas la peine de dissimuler. Il finit par se déclarer l'obligé très reconnaissant de l'évêque et de M. Slope, et par exprimer son vif désir d'accepter l'hospice s'il était absolument certain que M. Harding le refusât. Quel homme, besogneux comme l'était M. Quiverful, eût poussé plus loin le désintéressement? « M. Harding l'a positivement refusé, » dit M. Slope, avec un air de dignité offensé, quand il a appris quelles conditions étaient attachées à la nomination. Naturellement, M. Quiverful, les mêmes conditions vous seront imposées. » M. Quiverful se souciait bien des conditions. Il aurait prêché tous les sermons qu'aurait voulu M. Slope et aurait passé le reste de ses dimanches dans les murs d'une école. Quel sacrifice, ou du moins, quelle promesse lui aurait coûté quand il s'agissait d'ajouter à son revenu un semblable supplément et d'entrer en possession d'une si agréable habitation. Mais de nouveau, sa pensée se reporta vers M. Harding. « Assurément, dit-il, la fille de M. Harding est très riche. Pourquoi irait-il s'imposer la charge de l'hospice ?»« Vous voulez parler de Mrs. Grantly ?» dit M. Slope. « Non, de sa fille, qui est veuve. Mrs. Bold a un revenu de 1200 livres. »« Un revenu de 1200 livres ?» dit M. Slope, et il partit presque aussitôt, évitant autant que possible toute allusion nouvelle à l'hospice. « 1200 livres par an, se disait-il à lui-même, en revenant au palais. » S'il était vrai que Mrs. Bold avait 1200 livres par an, combien il serait insensé à lui de s'opposer à ce que M. Harding rentrât dans son ancienne situation. Il n'est pas nécessaire d'insister sur le tour qu'avaient pris les pensées de M. Slope. Pourquoi ne ferait-il pas passer entre ses mains le revenu de Mrs. Bold? Et s'il devait en être ainsi, ne valait-il pas mieux qu'il eût un beau-père bien pourvu des biens de ce monde? D'autre part, n'avancerait-il pas ses affaires auprès de la fille, en secondant de tout son pouvoir les désirs du père? Mais alors, il lui fallait agir sur le champ en faveur de M. Harding, discuter immédiatement avec l'évêque, se quereller avec Mrs. Proudie, car avec elle, il n'y avait pas de discussion possible. Informer M. Quiverful qu'il s'était un peu trop avancé en déclarant que le refus de M. Harding avait été formel. Tout cela ne lui serait pas trop difficile encore, mais il ne voulait pas le faire sans un profit assuré. Il ne voulait pas frayer la voie à M. Harding pour être ensuite rejeté par sa fille. Il ne voulait pas perdre un allié important avant d'en avoir gagné un autre. Et chemin faisant, il méditait toujours. Mrs. Bold était la belle-sœur de l'archidiacre, et même pour un revenu de 1200 livres, il ne consentirait pas à subir l'autorité de cet impérieux personnage. Il désirait ardemment épouser une femme riche, mais au-dessus de cet avantage, il plaçait encore le succès dans sa carrière. De plus, il pouvait y avoir d'autres femmes riches aspirant à trouver un époux, et après tout, ces 1200 livres, ce n'était pas le Pérou. Ne pourra-t-il trouver mieux? Et puis Mrs. Bold avait un fils. Une autre circonstance exerçait, à son insu, une grande influence sur le cours actuel de ses pensées. La signora Neroni était continuellement devant ses yeux. Ce serait trop dire que d'affirmer que M. Slope était amoureux, mais il croyait n'avoir jamais vu de femme aussi belle, et par ses manèges, la charmeuse italienne avait réussi à s'imposer à ses pensées. nous ne dirons pas à son cœur. Non qu'il n'en eût pas, mais le cœur était étranger aux sentiments qui l'agitaient alors. Ses yeux avaient été éblouis, sa vanité satisfaite. Il avait subi sur le champ le charme de ses manières aisées, libres, de cette attitude voluptueuse qui était nouvelle pour lui. Jamais auparavant, il n'avait éprouvé semblable sensation. Et la tentation avait été tout d'abord irrésistible. Il ne s'était pas avoué à lui-même qu'il pensait plus à cette femme qu'aux autres qui l'environnaient. Mais il songeait souvent aux occasions où il la reverrait, et presque à son insu, il préparait adroitement ces occasions. Il s'était présenté chez le docteur Stanhope le lendemain de la réception de Mrs. Proudie, et la vue de la signora aviva encore l'ardeur de son admiration. Si dans le salon de l'évêque, sous les yeux d'une assistance nombreuse, elle avait été gracieuse dans ses manières et flatteuse dans ses paroles, elle le fut bien davantage dans le salon de sa mère, où sa sœur se trouvait être seule. M. Slope l'avait quitté dans une sorte de ravissement, et il rejetait à l'avance tout plan, dont l'une des conséquences nécessaires aurait été qu'il renonçât à ses relations amicales avec la signora. Rappelons ici à nos lecteurs que M. Slope n'était pas un méchant homme. Si sa conduite n'est pas de nature à mériter notre approbation, elle était souvent inspirée par le désir d'accomplir ce qu'il croyait être son devoir. Il croyait fermement à la religion qu'on lui avait enseignée, si sèche, si peu aimable et si peu charitable qu'elle fût. Il croyait que ces hommes, qu'il aurait voulu tenir sous son talon, les Grantley, les Gwynne et les autres, étaient les ennemis de la religion dont il était lui le pilier. Il s'était persuadé à lui-même, par un raisonnement dont il ne sentait pas la subtilité égoïste, qu'en favorisant ses propres intérêts, il favorisait ceux de la religion. Mais M. Slope n'avait jamais été un homme immoral. Il avait même résisté à certaines tentations avec une fermeté qui lui faisait honneur. Il s'était, dès sa première jeunesse, dévoué à des œuvres incompatibles avec les plaisirs ordinaires de la jeunesse, et il s'était détourné, non sans combat, de ses plaisirs. On comprendra donc qu'il ne put s'avouer à lui-même, sans quelque remords, son admiration pour une femme mariée, et pour apaiser sa conscience, il devait se persuader à lui-même que la nature de cette admiration était innocente. M. Slope marchait donc, plongé dans ses réflexions et mal à l'aise. Sa conscience n'avait pas à lui reprocher ses projets sur la personne et la fortune de la veuve. Si réellement Mrs. Bold avait le revenu qu'on lui attribuait, il considérait comme un devoir envers la religion de s'assurer la possession de la femme et de l'argent, devoir dont l'accomplissement ne serait pas sans lui coûter quelques sacrifices. Il lui faudrait renoncer à ses relations avec la signora, à sa résistance à M. Harding, à son antipathie. Mais non, il sentait bien que jamais il ne pourrait cesser de détester l'archidiacre. Il épouserait la belle-sœur en demeurant l'ennemi du beau-frère, sinon elle irait chercher ailleurs un époux. Tandis que M. Slope était chez M. Quiverful, une discussion avait eu lieu chez le docteur Stanhope relativement au charme personnel et à la fortune de Mrs. Bold. Il y avait eu des visites, et l'on avait évalué fort diversement ce que John Bold avait pu laisser en mourant. Les visiteurs se retirèrent peu à peu. Le docteur sortit, et comme Mrs. Stanhope ne s'était pas montrée, Charlotte Stanhope et son frère demeurèrent seuls. Il était assis devant la table, dessinant les caricatures des notables de Barchester, bâillant, tournant quelques pages d'un ou deux livres, cherchant évidemment à tuer le temps sans se fatiguer. « Vous n'avez pas reçu beaucoup de commandes, Bertie, » dit Charlotte. « Des commandes ? De qui donc en recevrais-je ici ? Quel est l'habitant de cette intelligente cité à qui viendrait le désir de se faire représenter en marbre ? Alors vous allez abandonner votre profession ? Non pas, dit-il en faisant une charge du docteur Proudie. Regardez-moi cela, Charlotte. N'est-ce tout à fait le petit évêque avec son tablier et tout le reste ? Oui, je continuerai ma profession, comme vous l'appelez, et papa me payait un atelier à Londres. Mais quant à ce qui est de faire de la sculpture ici, je suppose que la moitié des gens ne savent pas ce que c'est qu'un torse. Papa ne vous donnera pas un shilling pour aller à Londres. Il ne pourrait vous donner ce qu'il faut pour cela, car il ne l'a pas. Mais vous pourriez vous faire vous-même une position si vous vouliez. Et comment diable ferais-je ? À dire vrai, Bertie, vous ne gagnerez jamais un penny dans aucune profession. C'est ce que je pense souvent, dit-il, sans s'offenser le moins du monde de la remarque. Il y a des gens qui ont le talent de gagner beaucoup d'argent sans savoir le dépenser. D'autres ne peuvent jamais avoir 2 shillings à la fois, mais ne sont jamais à court d'occasion de dépenses. Je crois que le sort m'a placé parmi ces derniers. Comment comptez-vous vivre alors ? Je dois me figurer que je suis une jeune corneille qui attend sa nourriture d'en haut. D'ailleurs, quand papa ne sera plus là, nous aurons tous quelque chose. Vous, vous aurez assez pour vous fournir de chaussures et de gants, à moins que toutefois tout ce qu'il a ne soit point passé aux Juifs. La plus grande partie de sa fortune a déjà pris ce chemin. Votre insouciance m'étonne, Bertie. Comment, avec vos talents et vos avantages personnels, ne faites-vous pas un effort pour conquérir une bonne situation ? Je pense avec effroi au moment où papa mourra. Maman, Madeleine et moi, nous serons pauvres, mais vous, vous n'aurez absolument rien. Voulez-vous un avis de moi ?
Cela dépend.
Voulez-vous épouser une femme qui a de l'argent ?
En tout cas, je n'épouserai pas une femme qui n'en aurait pas.
Mais il n'est pas si facile aujourd'hui de mettre la main sur une femme riche. Les prêtres sont là pour nous les souffler.
Et c'est un prêtre qui vous soufflera celle à laquelle je pense pour vous, si vous n'agissez promptement.
Je veux parler de Mrs. Bold.
Pouah, une veuve.
Elle est charmante,
dit Charlotte.
Avec un héritier déjà tout fait.
Un bébé qui mourra vraisemblablement.
Je ne crois pas cela, dit Bertie.
D'ailleurs, je ne l'empêche pas de vivre. Je ne désire pas sa mort. Mais épouser l'enfant avec la mère, cela manque de charme.
Qui n'a rien ne peut pas choisir, Bertie. Vous ne pouvez prétendre à tous les avantages réunis.
Dieu sait que je ne suis ni déraisonnable ni entêté. Et si vous voulez arranger les choses pour moi, Charlotte, j'épouserai la veuve.
Seulement, remarquez bien ceci. Je veux être certain de la fortune. Et je disposerai du revenu, tout au moins, pendant la vie de ma femme. Charlotte était en train de représenter à son frère qu'il devait faire sa cour lui-même. Elle lui prodiguait les encouragements et vantait la beauté d'Éléanor quand on apporta la signora dans le salon. Sans avoir l'élégante toilette qu'elle portait à la réception de l'évêque, elle était mise avec soin et, quoiqu'elle parût souffrante et soucieuse, elle était encore, même au grand jour, d'une éclatante beauté.
« Eh bien, Madeleine, je vais donc me marier, »
commença Bertie.
« C'est la seule folie que vous n'ayez pas encore faite, » dit Madeleine.
« Il est naturel que vous y songiez. »
« Ah, selon vous, c'est une folie. Voilà Charlotte qui m'y pousse, au contraire. Mais en pareille matière, c'est votre avis qu'il faut suivre. Vous avez pour vous l'expérience ?»«
Oui, je l'ai, » dit Madeleine d'un ton triste et rude à la fois. Elle semblait vouloir dire à son frère, « Qu'est-ce que cela vous fait si je suis triste ? Je ne vous ai jamais demandé votre sympathie. »
Bertie fut fâché de l'avoir offensé. Il s'approcha d'elle pour faire la paix.
« Voyons, Madeleine, je plaisantais, vous le savez. Mais sérieusement, Charlotte me conseille de me marier. Elle veut me faire épouser Mrs. Bold. C'est une veuve qui a le sac, un beau bébé, un teint superbe et l'hôtel de Saint-Georges et du Dragon dans High Street. Par Jupiter, Charlotte, si je l'épouse, je tiendrai l'hôtel moi-même. C'est justement la vie qu'il me faut.
« Quoi ? » dit Madeleine. « Cette fade créature avec un bonnet de veuve ? » À qu'il semblait qu'on eût jeté des habits sur le dos avec une fourche.
La signora n'admettait jamais qu'une autre femme fût belle.
Loin de la trouver fade, dit Charlotte, je l'appelle une très jolie femme.
Elle était de beaucoup la plus jolie, l'autre soir, après vous, Madeleine.
Le compliment n'adoucit pas l'humeur de la Vénus estropiée.
Toutes les femmes sont charmantes pour vous, Charlotte. Je n'ai jamais vu si mal jugée. « D'abord, quelle femme paraîtrait jolie avec une horrible chose comme cela sur la tête ?»«
Naturellement, elle porte le bonnet de veuve, mais elle le retirera quand elle épousera Bertie. »«
Je ne vois rien qui soit naturel là-dedans, » dit Madeleine.
« Je perdrai 20 maris que je ne me soumettrai pas à une semblable coutume. C'est un reste du paganisme, comme le sacrifice des femmes hindoues qui se brûlent sur le corps de leurs époux. C'est moins sanglant, mais c'est aussi barbare, aussi inutile. »«
Mais vous ne devez pas la blâmer pour cela. » dit Bertie. Elle suit la coutume du pays. On la critiquerait si elle voulait s'y soustraire.
Il ne serait pas sage à une femme, dans un pays comme le nôtre, de vouloir s'insurger contre un préjugé de ce genre, dit la prudente Charlotte.
Et j'imagine, reprit Bertie, que si, après ma mort, je pouvais venir faire un petit tour sur la terre, ma veuve me semblerait avoir meilleur air sous l'un de ses bonnets que sous toute autre coiffure.
Oui, et vous imaginez vous aussi que ce qu'elle pourrait faire de mieux, ce serait de s'enfermer, de pleurer sur vous et peut-être de se brûler. Mais elle, elle penserait différemment. Elle porterait peut-être un de ces horribles casques, parce qu'elle n'aurait pas le courage de s'en dispenser, mais elle l'aspirait sans cesse après le moment où elle pourrait le jeter par-dessus les moulins. Quant à moi, je laisserai dire le monde et je n'affecterai pas une douleur que je ne ressentirai pas. « Mais son bonnet de veuve ne diminue pas sa fortune, » dit Charlotte. « Il ne l'augmente pas non plus. D'ailleurs, s'il est vrai qu'elle a un revenu de 1200 livres, qu'elle n'est pas absolument vulgaire de manière, je vous conseille aussi de l'épouser. Comme vous ne vous marierez pas par amour, peu importe qu'elle soit jolie ou non, quant à épouser en effet une femme par amour, je ne crois pas que vous, vous soyez assez sot pour cela. » « Oh, Madeleine !» s'écria la sœur. « Madeleine !» s'écria le frère. « Vous ne prétendez pas dire que ce serait sottise un homme d'aimer une femme ? Ce que je veux dire, c'est qu'un homme, à qui le désir de posséder un joli minois ferait oublier son intérêt, est un sot. Une jolie figure ne vaut pas ce prix-là. Je hais votre sentimentalité insipide, Charlotte. Vous savez aussi bien que moi comment vivent mari et femme. Vous savez si l'ardeur de l'amour conjugal peut résister à l'épreuve d'un mauvais dîner, d'un jour pluvieux, de la moindre privation. Vous savez quelle indépendance l'homme s'arroge et quelle servitude il imposerait à sa femme s'il l'osait. Et vous savez aussi comment, d'ordinaire, les femmes obéissent à leur mari. Le mariage, c'est la tyrannie d'un côté, la tromperie de l'autre. Ce que je dis, c'est qu'un homme est un sot de sacrifier son intérêt pour conclure un semblable marché. Les femmes, trop souvent, sont obligés de le subir pour vivre. « Mais Bertie lui aussi, » dit Charlotte. « De quoi vivrait-il s'il ne se mariait pas ?»« Alors qu'il épouse Mrs. Bold, » dit Madeleine. Et la chose fut ainsi décidée entre les deux sœurs.